Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. J'empaille moi-même tous mes petits chéris quand ils rendent l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé ?
Bonsoir.
Sur la cuisson des pâtes, ils pouvaient se montrer désagréablement pointilleux, voire impitoyables.
Oui, Mary, de toute mon âme et de tout mon cœur, je vous aime. Oh, Jack, racontez-moi plutôt une histoire.
Et cette histoire, tu la racontes ?
Ferme les yeux, ça va commencer. Bienvenue dans Ferme les yeux, votre émission de lecture accompagnée de musique. Aujourd'hui, le troisième épisode de Herbert West, réanimateur. Six coups de feu au clair de lune. Il n'est pas courant de tirer six coups de feu à la suite, alors qu'un seul aurait suffi. N'importe qui, je pense, en conviendra. Mais, en même temps, il faut bien avouer que tout, ou presque tout, dans l'existence de Herbert West, avait un caractère d'exception. Par exemple, il est peu commun qu'un jeune médecin se trouve contraint de dissimuler les raisons qui ont guidé le choix de sa résidence et de son cabinet. Ce fut pourtant le cas de mon ami. Lorsque nous eûmes tous deux obtenu nos diplômes universitaires, nous nous installâmes comme praticiens de médecine générale, tout en prenant bien soin de ne pas dire que nous avions choisi notre demeure pour sa situation isolée. Elle se trouvait en outre à proximité de la fosse commune. Ce choix était lié aux recherches extrêmement impopulaires que nous poursuivions. Extérieurement, nous n'étions que des médecins, mais sous cette apparence se cachaient des desseins d'une envergure infiniment plus ambitieuse. Car l'essence de la vie de West, son essence même, était une quête. Une quête parmi les royaumes ténébreux et interdits de l'inconnu dans lesquels il espérait découvrir le secret de la vie. Ce secret qui lui permettrait de redonner à l'argile froide des cimetières une animation perpétuelle. Une telle recherche exige d'étranges matériaux, et en particulier des cadavres frais. Pour pouvoir s'approvisionner selon ses besoins, il faut donc vivre discrètement et dans un endroit peu éloigné des lieux d'enterrement. J'avais rencontré West en faculté, et j'avais été le seul à témoigner de la sympathie pour ses hideuses expériences, ainsi qu'il faut bien se résoudre à les appeler. J'étais devenu peu à peu son inséparable assistant, et maintenant que nous avions quitté l'université, nous restions ensemble. Ce ne fut pas facile de trouver des débouchés pour deux nouveaux médecins associés, mais finalement, les autorités universitaires nous firent obtenir un cabinet à Bolton, une ville industrielle proche d'Arkham. C'est à Bolton que se situent les usines Worsted, les plus importantes de la vallée du Miskatonic. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs employés polyglottes ne sont pas des clients très appréciés des médecins locaux. Nous choisîmes notre maison très soigneusement, nous décidant enfin pour un cottage délabré près de l'extrémité de Pond Street, à 5 numéros du voisin le plus proche, et séparé de la fosse commune locale par une prairie, traversée elle-même par une bande de forêt étroite et dense. La distance était supérieure à ce que nous aurions souhaité, mais nous ne pouvions trouver de maison plus proche si nous voulions en même temps rester dans le quartier de l'usine. Nous n'étions pas trop mécontents, cependant, car il n'y avait personne entre nous et notre sinistre source d'approvisionnement. Il fallait certes un peu marcher, mais nous pouvions traîner nos spécimens silencieux sans être dérangés. Nous eûmes la surprise d'avoir très vite une large patientèle. Il faut dire que les ouvriers de l'usine étaient plutôt du genre turbulent, et en plus de leurs efforts physiques, leurs querelles fréquentes, au couteau, nous donnaient beaucoup de travail. Mais ce qui absorbait vraiment nos esprits, c'était le laboratoire secret que nous avions installé dans la cave, le laboratoire avec la longue table sous la lampe électrique, où, aux petites heures du matin, nous injections souvent les différentes solutions de West dans les veines des corps que nous amenions de la fosse commune. West faisait des expériences passionnées pour trouver ce qui remettrait en mouvement un homme mort, mais il se heurtait aux obstacles les plus grands. La solution devait être différente pour chaque cas. Tout ce qui servait pour les cobayes animaux ne pouvait pas servir pour les humains, et les différents spécimens demandaient d'importantes modifications. En plus, les corps devaient être très frais, car la plus petite décomposition des tissus cérébraux faussait irrémédiablement la réanimation. Trouver des corps suffisamment frais, c'était là le problème essentiel. Pendant ses recherches universitaires secrètes, West avait eu, avec des cadavres d'une fraîcheur douteuse, des expériences horribles. Les résultats d'une réanimation partielle ou imparfaite étaient bien plus redoutables que les échecs, et nous avions tous deux des souvenirs atroces de ces événements. Ainsi, depuis notre première expérience démoniaque, dans la ferme abandonnée de Meadow Hill, nous sentions comme une vague menace. Et West, qui était pourtant par bien des aspects une espèce d'automate calme, blond, aux yeux bleus, à l'esprit scientifique, avouait souvent, en frissonnant, qu'il avait l'affreuse sensation d'être poursuivi, illusion psychologique due à ses nerfs ébranlés, mais que venait renforcer le fait indéniablement inquiétant qu'au moins l'un de ces spécimens que nous avions ranimés était encore en vie. C'était un terrifiant carnivore enfermé dans une cellule matelassée. Et il y en avait un autre, notre premier cobaye, dont nous n'avions jamais connu le sort exact. Nous eûmes bien plus de chance avec les spécimens de Bolton. Cela faisait à peine une semaine que nous étions installés quand nous nous procurâmes un accidenté, la nuit même de son enterrement. Nous réussîmes à lui faire ouvrir les yeux, dans lesquels nous pûmes discerner une expression étonnamment rationnelle. Mais l'effet de la solution s'arrêta là. L'homme avait perdu un bras, mais si le corps avait été intact, nous aurions très certainement bien mieux réussi. Entre cette expérience et le mois de janvier, nous fîmes trois autres tentatives. L'une fut un échec total, la seconde provoqua des mouvements musculaires assez marqués, et la dernière fut plutôt effrayante, car le cadavre se leva et émit un son. Puis vint une période où la chance nous fit défaut. Il y eut moins d'enterrements, et ceux qui avaient lieu concernaient des spécimens trop malades ou trop abîmés pour nous être utiles. nous nous tenions au courant de toutes les morts et, bien entendu, des conditions dans lesquelles elles se produisaient. Une nuit du mois de mars, cependant, nous obtînmes par hasard un spécimen qui ne venait pas de la fosse commune. Il faut savoir qu'à Bolton, l'esprit puritain avait interdit les combats de boxe. Mais des rencontres clandestines avaient communément lieu parmi les ouvriers d'usine. Et, à l'occasion, des professionnels peu connus étaient même invités. En cette tardive nuit d'hiver, un match avait eu des résultats désastreux. Et deux Polonais craintifs étaient venus nous voir en murmurant des paroles inquiètes. Nous les suivîmes aussitôt jusque dans une grange abandonnée où ce qu'il restait d'une foule d'étrangers apeurés regardait en silence une forme noire sur le sol. Le match avait eu lieu entre Kid O'Brien, un gaillard empoté, agité à présent de tremblements, et Buck Robinson, dit « la fumée de Harlem ». Le noir avait été mis KO, et un rapide examen nous permit de conclure qu'il demeurerait ainsi pour l'éternité. Les spectateurs étaient apeurés, car ils ne savaient pas ce que la loi leur réservait si l'affaire n'était pas étouffée. Aussi furent-ils bien reconnaissants à West lorsque celui-ci, malgré mon involontaire frisson, leur proposa de les débarrasser en secret de la chose, pour une raison que je ne connaissais que trop bien. Nous entrâmes dans la maison par la porte de derrière, puis descendîmes l'objet dans la cave et le préparâmes pour l'expérience. Nous avions très peur de la police, bien que nous eussions soigneusement minuté notre voyage pour éviter la seule patrouille du secteur. Le résultat fut peu passionnant, car notre butin resta insensible à chaque solution que nous injectâmes dans ses bras morts, solution préparée, il est vrai, pour des expériences réservées à d'autres spécimens. C'est pourquoi, comme l'aube approchait dangereusement, nous fîmes ce que nous avions fait avec les autres. Nous traînâmes la chose à travers champs, jusqu'au petit bois, à côté du cimetière, et l'enterrâmes dans une tombe, que nous réussîmes tant bien que mal à creuser dans le sol gelé. La tombe était peu profonde, mais aussi bonne que celle qui nous avait servi pour le spécimen précédent, celui qui s'était levé et avait émis un son. À la lueur de nos lanternes, nous la recouvrîmes de feuilles et de racines, à peu près certain que la police ne la trouverait pas dans une forêt si sombre et si dense. Je passai la journée suivante dans la crainte des autorités, car un patient nous avait rapporté des rumeurs au sujet d'un combat et d'une mort suspect. West avait, quant à lui, un autre sujet d'inquiétude, car il avait été appelé dans l'après-midi pour un cas qui s'était terminé de façon alarmante. Une Italienne était devenue hystérique à la suite de la disparition de son enfant, un gamin de 5 ans qu'on n'avait pas revu depuis le matin et qui n'était pas rentré le soir. Elle présentait des symptômes très inquiétants. L'enfant avait déjà disparu plusieurs fois, sa crise était donc inexplicable. Mais les paysans italiens sont très superstitieux et cette femme semblait aussi effrayée par des présages que par des faits. Elle était morte vers 7 heures du soir, et son mari, perdant complètement la tête, avait essayé de tuer West, à qui il reprochait de ne pas l'avoir sauvé. Des amis l'avaient retenu quand il avait sorti un poignard, et West était parti au milieu de ses cris inhumains, de ses malédictions et de ses serments de vengeance. Dans son chagrin, l'homme semblait avoir oublié son enfant, que l'on n'avait toujours pas retrouvé dans la nuit. On parla de faire des recherches dans les bois, mais la plupart des amis de la famille étaient occupés à habiller le cadavre de la femme et à calmer le mari. La tension nerveuse de West avait dû être énorme. la pensée de la police et de l'Italien fou pesait lourdement sur nos esprits. Nous nous couchâmes vers 11h, mais ne dormîmes pas bien. Bolton avait des effectifs de police étonnamment importants pour une si petite ville, et je ne pouvais pas m'empêcher de redouter les conséquences si on découvrait l'affaire de la nuit précédente. Cela signifierait la fin de notre travail, et peut-être même la prison pour nous deux. L'horloge sonnait 3h, et la lune m'éblouissait. Je me retournai sans me lever pour tirer le store. C'est alors qu'un grattement régulier se produisit, à la porte de derrière. Je demeurai immobile, un peu interdit, lorsque j'entendis West frapper à ma porte. Il était en robe de chambre et en pantoufles, et tenait un revolver et une lampe électrique. À voir cette arme, je conclus qu'il pensait plus à l'Italien fou qu'à la police.
Nous ferions mieux d'aller voir tous les deux, chuchota-t-il. Il ne servirait à rien de ne pas répondre, et peut-être est-ce impatient. Cela ressemblerait bien à l'un de ces idiots de frapper à la porte de derrière.
Nous descendîmes donc l'escalier, sur la pointe des pieds, avec une crainte à demi justifiée. Le grattement continua et s'amplifia. Quand nous nous trouvâmes devant la porte, je la déverrouillai prudemment, puis l'ouvris brusquement, et tandis que la lune révélait la silhouette, West commit un acte étrange. Sans craindre d'attirer l'attention et d'amener sur nous les recherches de la police, ce qui ne se produisit pas grâce à l'isolement de notre maison, mon ami déchargea les 6 cartouches de son revolver sur le visiteur nocturne, et cela brusquement, intempestivement et sans nécessité apparente. Car ce visiteur n'était ni l'Italien, ni la police. Se détachant hideusement contre la lune spectrale, il avait une silhouette gigantesque, difforme, cauchemardesque. C'était une apparition sur 4 pattes, aux yeux vitreux d'un noir d'encre, couverte de moisissures, de feuilles, de racines, répugnante, avec des plaques de sang séchées, tenant, entre ses dents luisantes, un objet blanc comme neige, cylindrique, avec, au bout, une petite main. Tenant entre ses dents luisantes un objet blanc comme neige, cylindrique, avec au bout une petite main. Les jolies colonies de vacances. Merci papa. Merci maman.
Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Yika dina ina ya. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Yika dina ina ya.
Ferme les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez désormais les rouvrir. Nous nous retrouvons bien entendu jeudi prochain à 23h pour de nouvelles aventures de Herbert West et de son assistant. En attendant, vous pouvez retrouver l'épisode en podcast sur cfmradio.com. www.radiocanada.fr. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.